Chapitre 77. Alice rêve. Une dame immense qui ressemble à sa propre mère, mais qui est enveloppée dans une robe de gazon, lui parle. « Qu'as-tu fait ?»«
J'ai essayé de te faire plaisir, maman, »
lui répond-elle.
« J'ai essayé de poursuivre ton œuvre. J'ai essayé d'interpréter ta propre manière d'agir. J'ai voulu diversifier les formes de vie, et notamment celles de mon espèce. »
Tu as tout gâché. Tu n'as pas créé de nouveaux humains. Tu as créé des chimères.
Comprends-moi, maman. Je l'ai fait pour t'honorer.
Tu te mens à toi-même, ma fille. Tu as péché par orgueil. Tu as voulu montrer que tu étais mon égale.
C'est fou. Je suis la servante de l'énergie de vie qui parcourt l'univers. Ce n'est pas moi qui ai déclenché la Troisième Guerre mondiale.
La géante éclate d'un rire tonitruant, semblable à celui de Frankie au féminin. Arrête ton cinéma, Alice. Ça ne marche pas avec moi. Tu es en train de préparer la Quatrième Guerre mondiale.
Je te jure, maman, que j'ai tout fait dans l'idée de te servir.
Eh bien, tu as échoué. Et maintenant, je vais devoir tout corriger. À cause de toi, je vais procéder à la sixième extinction de masse sur cette planète. J'ai parfois l'impression d'être un professeur qui doit effacer ce qu'il a écrit au tableau parce que les élèves n'ont pas compris la leçon. Je dois sans cesse la présenter d'une nouvelle manière en espérant qu'ils la comprennent enfin. Alors surgit du ciel un météore monstrueux qui percute la surface de la Terre, créant une gigantesque déflagration, laquelle, partant de la zone d'impact, produit un mur de feu qui avance dans toutes les directions, dévastant tout sur son passage et répandant une odeur de brûlé.
Ça sent le plastique calciné. Mais ce n'est pas dans mon cauchemar, ça sent vraiment le brûlé. Il faut que je me réveille.
Alice ouvre les yeux. Le plafond en polystyrène de la prison de verre est en flammes. Des morceaux de plastique fondu et de tapisserie tombent sur le baldaquin qui prend feu lui aussi. L'incendie gagne les murs en papier et les meubles. Francine et Diego ont pris une bassine et un seau qu'ils remplissent à tour de rôle au robinet du lavabo. Ils arrosent en vain le décor qui flambe.
« Je vais mourir brûlée vive dans une cage de musée !»
Mais soudain, au milieu de la fumée et des flammes, surgit de l'autre côté de la vitre une petite silhouette connue.
« Axel !»
Elle ouvre la porte de l'extérieur et libère les trois sapiens qui s'empressent de sortir de leur prison.
« Mais qu'est-ce que tu... »
balbutie Alice en étreignant leur sauveuse.
« Pas le temps de discuter, suis-moi !»
dit la Fayeur. Main dans la main, mère et fille courent dans le dédale de couloirs vides du musée, suivis de près par le couple de vieux humains, alors que le paléospace de Villers-sur-Mer s'embrase de plus belle. Axel, qui a repéré les lieux, les guide jusqu'à une issue de secours qui débouche sur une ruelle arborée. Une fois hors du bâtiment, les fuyards profitant de l'obscurité peuvent enfin s'arrêter pour reprendre leur souffle. Alice demande alors à sa fille
« Comment as-tu su que j'étais là ?»«
C'est Solange qui est venue me chercher. »«
Solange ?
Elle est par là, elle nous attend. »
La femme chauve-souris, jusqu'alors dissimulée derrière un arbre, sort de sa cachette et étreint fort son ami Sapiens en l'enveloppant dans ses ailes protectrices.
« J'ai eu si peur pour toi !»
murmure-t-elle. Alice l'embrasse.
« Toi aussi, tu as été emprisonnée. Comment as-tu fait pour t'échapper ?»«
En fait, quand tu as été arrêtée, les Nautiques ont craint d'avoir des problèmes diplomatiques avec les Aérials et m'ont libérée. Du ciel, j'ai suivi la camionnette et j'ai vu qu'ils t'avaient enfermée dans le paléospace. J'ai tout de suite réfléchi à la façon de te libérer. » Mais je me suis dit que du fait que mes mains sont mes pieds, je n'y arriverais jamais seule et qu'il me fallait de l'aide. Je suis allée chercher la plus débrouillarde de toutes tes hybrides.
Mais comment as-tu trouvé Axel ?
Solange, avec un grand sourire. Elle était chez les Diggers. Elle avait fait sensation avec un spectacle de magie durant lequel elle s'était coupé un doigt pour impressionner son public. Tout le monde parlait d'elle et de son pouvoir. Les Diggers ont pu m'indiquer l'hôtel pour étrangers où elle s'était installée. Je l'ai rejointe, je lui ai expliqué la situation et nous avons ensemble mis au point un plan d'évasion. L'incendie en faisait partie.
La jeune femme salamandre secoue ses longs cheveux rouges pour en faire tomber les cendres qui s'y sont accrochées.
Nous avons choisi d'agir à l'heure où il y aurait le moins de nautiques aux alentours, raconte-t-elle. Par chance, ce sont des hybrides diurnes alors que les aériales et moi sommes nocturnes.
Soudain, une sirène d'alerte résonne.
Il va falloir vite déguerpir, dit Alice.
Et nous ?
Demandent en chœur Francine et Diego.
Désolé, je n'ai que deux bras, annonce Solange.
Vous ne pouvez pas nous abandonner,
clame Diego.
C'est à cause de vous si nous sommes dans cette situation. Vous avez le devoir de nous sortir de là.
Il a raison, on ne peut pas les abandonner. Solange, tu vas devoir faire deux voyages. Tu vas commencer par évacuer ces deux sapiens.
Alice repère un bâtiment abandonné à quelques encablures du palais Hospace de Villers-sur-Mer, encore en feu.
Axel et moi, nous allons nous cacher dans ce vieil entrepôt le temps que tu viennes nous reprendre. Nous devrions y être en sûreté.
Solange emporte alors Francine et Diego hors de la zone nautique, pendant que les deux femmes filent se mettre à l'abri. Elles parviennent à pénétrer sans difficulté dans le local désert et sombre. C'est une sorte de grand hangar désaffecté, dont une seule fenêtre donne sur l'extérieur. De là où elles sont postées, Alice et Axel peuvent observer le palais Hospace, fragilisé par les flammes, qui menacent de s'effondrer. À l'extérieur, les sirènes continuent de hurler et des dizaines de pompiers nautiques accourent sur le lieu du sinistre.
Comment as-tu réussi à incendier un bâtiment en béton, en acier et en verre qui n'a pratiquement aucune structure inflammable ?
Chuchote Alice.
Facile. J'ai utilisé des produits d'entretien,
répond la jeune femme salamandre en lissant ses longues mèches rouges aux extrémités foncées. Alice la trouve de plus en plus belle et gracieuse, même si sa tête rappelle parfois celle d'une grenouille, mais d'une grenouille extrêmement délicate. Ses yeux brillent d'admiration pour la débrouillardise de la jeune femme. Depuis leur poste d'observation, Alice et Axel observent les nautiques qui forment une chaîne et transportent des seaux d'eau qu'ils jettent abondamment sur les flammes. D'autres s'éparpillent un peu partout, avec l'intention manifeste de fouiller chaque recoin.
« Ils ont compris que nous étions encore là !»
murmure Axel.
« Je ne suis pas sûre que tu aies fait le bon choix en voulant exfiltrer tes congénères avant nous. »
« Si ces deux-là vivaient en captivité, c'était par ma faute d'une certaine façon. Je leur devais bien ça. »
Axel a un air navré.
« Ah oui !» J'oubliais ce sentiment si étonnant partagé par la plupart des sapiens, la culpabilité.
Alice voudrait répliquer, mais la jeune femme salamandre continue.
Crois-tu vraiment que le chef d'une horde de loups ressent de la culpabilité à mener sa meute massacrer un troupeau de moutons? Et que l'araignée se demande si c'est bien de manger
de beaux papillons?
La culpabilité ne sert à rien, maman. Enfin, je veux dire, dans l'évolution. Les notions de pitié, de scrupules et de regrets ne sont que des notions abstraites et inutiles typiquement sapiens.
Au même moment, deux nautiques armés de grandes machettes se dirigent vers l'entrepôt où elles se trouvent. Axel fait signe à sa mère, qui se tient toujours devant la fenêtre, de se baisser. Discrètement, elle lui montre une grande armoire métallique dans un des coins de la pièce, dont la porte est entrouverte et l'intérieur vide. Elle se glisse dedans. Dehors, les deux nautiques en uniforme militaire s'arrêtent à l'entrée de l'entrepôt.
« Tu sens pas comme une odeur ?»
dit l'un.
« T'as raison, ça pue le sapiens par ici !»
répond l'autre. Les deux militaires entrent et balaient l'espace de leur lampe torche.
« Pas de doute, l'odeur est plus forte par ici !»
À cet instant, Alice regrette d'avoir conçu un nautique avec un odorat si performant. Elle regrette aussi de leur avoir donné une plus grande musculature.
C'était pratique pour nager, mais ça leur donne aussi l'avantage dans tout combat physique. Et ça ne m'arrange pas précisément. On ne peut pas rester là,
murmure la Fayeur.
S'ils nous trouvent, nous n'aurons aucune possibilité de nous échapper.
Axel prend la main d'Alice pour l'aider à sortir de leur cachette sans être vue par les nautiques. Malgré leurs précautions, l'armoire métallique grince et les deux hommes dauphins se retournent brusquement. Tout va alors très vite. Dans un réflexe fulgurant, Axel jaillit à l'extérieur du placard, bondit sur le premier soldat, lui arrache la machette des mains et la lui enfonce profondément dans le cœur. À son tour, Alice, qui a profité de la confusion pour s'extraire tant bien que mal de l'armoire, fait face au second soldat dont elle tente de se protéger. Mais le nautique la repousse et elle tombe au sol. La vieille sapiens étant hors jeu, le nautique fonce vers Axel qui paraît plus dangereuse. Il prend de l'élan et frappe de sa longue machette la jeune femme salamandre au niveau des hanches. Le geste circulaire est puissant. La lame est si aiguisée qu'elle sépare d'un coup le corps d'Axel en deux parties. Le morceau du haut, qui comprend la tête, les bras et le tronc, tombe dans un bruit de masse molle alors que celui du bas, des hanches aux pieds, reste en position verticale. Le nautique constate, médusé, qu'aucun des deux morceaux ne saigne. Profitant de l'effet de surprise, Alice, recouvrant un surplus d'énergie malgré son âge avancé, ramasse la machette et pourfend à son tour le deuxième militaire au niveau du cœur. Du sang bleuté gicle. Il hurle et s'écroule. Sans perdre de temps, Alice se penche vers la moitié supérieure d'Axel, alors que la partie inférieure tient toujours debout, immobile et stable, comme pour continuer de narguer son assaillant.
« Ça va aller !»
la rassure aussitôt Axel, alors que ses bras tentent de redresser cette partie du corps à la verticale.
« Mais non, ça ne va pas aller, tu es coupé en deux par le milieu !»
s'affole Alice.
« Si je survis à ça, je pourrais participer au fameux tour de magie de la femme coupée en deux !»
dit-elle avec un clin d'œil taquin. Alice est décontenancée par le flegme de la jeune femme. Elle, habituellement si calme dans les situations difficiles, se sent cette fois dépassée par les événements. Axel devine son désarroi et lui dit avec douceur «
Pour l'instant, maman, je suis toujours vivante, puisque j'arrive à te parler, et je ne souffre pas. Mais il va falloir que tu me portes, sans quoi je risque d'avoir du mal à me déplacer. »
Tu ne crois pas qu'on devrait plutôt... Axel réussit à se dresser sur ses bras.
Ce n'est pas le moment de tergiverser, lui dit-elle d'un ton ferme. Il faut se préparer à partir dès que ce linge sera là. Il suffira que tu tiennes mon thorax en l'attrapant sous les aisselles. Et tes jambes? Laissons-les ici. C'est la partie avec le cerveau qui est la plus précieuse. C'est là où se trouve ma conscience, tu te rappelles? Le reste, c'est juste de la viande.
L'expression surprend Alice, qui peine à quitter des yeux les jambes qui se tiennent toujours debout, comme si elles attendaient qu'on replace sur les hanches le haut du corps. Soudain, elles entendent une voix. Depuis la fenêtre, Alice aperçoit deux soldats. Cachée contre le chambranle de la fenêtre, elle tend l'oreille. L'un d'eux, la perruque de Francine à la main, déclare à son collègue en regardant le ciel
« Ils enfuient par les airs avec la complicité d'un aérial. On ne les retrouvera jamais. Viens, on sera plus utile pour éteindre l'incendie. »
Nous avons un répit. Pendant qu'Axel surveille l'entrée, Alice fait le tour du hangar, cherchant une issue pour atteindre le toit terrasse du bâtiment. Elle repère une trappe et une échelle métallique. Axel, à la force des bras, la rejoint et toutes deux se hissent à l'extérieur pour attendre le retour de Solange. Tandis que la nuit est tombée sur Villers-sur-Mer, la femme aérienne apparaît enfin à l'horizon.
« La voilà !»
signale Alice en agitant les bras. Solange, qui les a repérés malgré l'obscurité grâce à sa faculté d'écholocalisation, les rejoint.
J'ai déposé les deux sapiens à une vingtaine de kilomètres d'ici vers le nord,
explique-t-elle en reprenant son souffle.
Vous deux, je vais vous emmener à 20 kilomètres vers l'est. Ça vous va?
Dans l'obscurité, Solange a cru qu'Alice portait Axel sur son dos. Elle n'a pas remarqué tout de suite que ce n'était que la moitié supérieure d'Axel, comme une sorte de sac à dos dont les bras seraient les bretelles. Elle plaisante.
On dirait que vous avez eu des petits soucis pendant mon absence.
Une simple coupure,
répond Axel sur le même ton. Mais Alice se tourne et Solange découvre le corps sectionné sous le nombril de la jeune femme salamandre.
Tu n'as plus de jambes,
s'écrie-t-elle, horrifiée.
C'est comme quand vous vous coupez les ongles trop à ras, mais ils finissent par repousser,
explique Axel avec philosophie. L'aérial reprend son calme.
Et donc, tu ne saignes pas?
Dit-elle, les yeux rivés sur la substance molle comme de la pâte à modeler qui recouvre la plaie.
Si Axel dit que ça va, c'est que ça doit aller,
l'interrompt Alice.
Filons d'ici avant que d'autres nautiques débarquent.
Solange attrape Alice par la taille, qui elle-même tient Axel sous les bras, et décolle. Grâce à sa puissante vision nocturne, la femme chauve-souris se déplace avec aisance dans la nuit. Elle parvient ainsi à voler suffisamment loin pour que les trois femmes ne soient ni repérées ni poursuivies. Cependant, la charge est lourde pour Solange, tout comme pour Alice.
« J'ai besoin d'une pause, »
dit-elle, épuisée à l'aérial. Elles atterrissent dans une zone qui semble inhabitée. Elles s'abritent dans une ancienne villa abandonnée et y installent un campement de fortune pour passer la nuit. Tandis que Solange et Axel s'endorment à peine la tête posée au sol, Alice, bien qu'à bout de force, a du mal à trouver le sommeil.
« Je n'en reviens pas. Tous ces êtres nouveaux que j'ai fabriqués m'échappent entièrement. Ils me menacent ou ils me sauvent. Ils m'écoutent ou ils me surprennent. Je les ai voulus différents. Ils deviennent non seulement autonomes, mais aussi incontrôlables, voire incompréhensibles. Le monde ancien n'est plus. Le monde nouveau m'inquiète.